Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Je suis content que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Culturez-vous, l'émission de pop culture de Transistor. Je vous avais prévenu lors de la dernière émission, alors chose promise, chose due, aujourd'hui je vous parle de gens qui se mettent tout nus. Et pas n'importe qui. Enfin si, justement, n'importe qui. Des gens tout à fait ordinaires qui vont se transformer en personnages extraordinaires et tout ça en l'espace de 15 minutes. La recette, une situation ordinaire avec des personnalités à part entière, un bon générique et un montage impeccable. Le résultat? Des reportages de 15 minutes qui nous présentent des tranches de vie qui resteront pour certaines ancrées dans notre mémoire collective, même 20 ans après. Des mini-documentaires qui font écho à notre société à travers ce qu'elle a de plus poétique, mais aussi avec ses démons. Ces âmes perdues, ces marginaux mis de côté et ces dingos complètement barrés. Aujourd'hui, je vous parle de striptease. Diffusé pendant 20 ans, cet ovni télévisuel a traversé les genres et les époques tout en gardant son objectif premier, montrer le réel sans mise en scène. Alors dit comme ça, ça semble très innocent et tout à fait honorable, mais les épisodes de striptease sont comme la vie. Pas si évident à gérer et parfois un peu cabossé.
La vie n'est pas un fleuve tranquille, maman.
Pendant toute son existence, l'émission a été autant célébrée que décriée. Accusée de trash TV à la sauce télé-réalité, de voyeurisme et de misérabilisme, Striptease a essuyé de nombreuses critiques de la part de journalistes et de téléspectateurs. Mais jusqu'en 2012, elle a tout de même réussi à garder le cap et à continuer ses reportages si singuliers. Dans l'émission du jour, on va revenir sur ces polémiques en décortiquant la méthode Striptease et en revenant bien sûr sur des épisodes cultes qui ont contribué au succès de l'émission, quitte à faire tomber certains mythes. Allez, c'est parti, on part tout de suite à la rencontre du docteur Lulu et de ses compagnons des feuillages. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous. Des silhouettes en peinture colorée, tout en mouvement qui se déshabillent sur fond de musique en fanfare, plus qu'un générique, c'est le symbole de l'émission Striptease. Diffusée à partir de 1992 en France, elle est née en Belgique, 7 ans plus tôt, en 1985, grâce aux deux journalistes, Marco Lamensch et Jean Libon. Au départ, les deux acolytes étaient reporters internationaux. Ils sillonnaient le monde pour ramener des images et des documentaires. La drogue, l'homosexualité, les conflits, autant de sujets que les journalistes devaient mettre en boîte pour la chaîne du service public belge, la RTBF. Marco Lamensch et Jean Libon travaillent à l'époque sur un magazine d'information appelé Faits divers, qu'on pourrait comparer au Envoyé spécial français. Mais ils en ont marre du rythme de leurs reportages. Trop de choses à dire ou à montrer, et jamais assez de temps accordé. La plupart du temps, les deux journalistes filment des entretiens, quand eux rêvent de pouvoir montrer l'envers du décor et le quotidien de leurs protagonistes. Frustrés, ils décident en 1985 d'embarquer des journalistes, des caméramans, des preneurs de son et des monteurs pour lancer un nouveau concept d'émission. Ils veulent réaliser des documentaires de 15 minutes en moyenne sur des situations vécues par des personnes ordinaires. Filmer des quotidiens, des personnalités et des tranches de vie sans influencer le jugement du téléspectateur. Un montage exigeant et précis pour mettre en avant la vie des gens. La RTBF valide le projet. Les journalistes du service public peuvent officiellement se lancer dans l'aventure. Striptease est né. La volonté première de l'équipe est de créer des documentaires sans parole. Ils en ont marre de faire et de voir des reportages où tout est commenté. Pour eux, ces commentaires peuvent faire dire tout et n'importe quoi aux images et prennent les gens pour des imbéciles incapables de penser par eux-mêmes. Avec Striptease, les journalistes font confiance au public pour comprendre ce qui se joue devant eux. Ils montent leurs documentaires à la manière d'un film. Les séquences s'enchaînent les unes après les autres, de façon à ce que l'on comprenne toute l'histoire sans qu'il y ait un seul commentaire. La seule voix off que vous pouvez entendre, c'est pendant le générique. Au début et à la fin de chaque épisode, la voix de Marianne Matagne nous lit quelques phrases écrites par Marco Lamensch, toujours pleines d'humour et de poésie.
Une goutte de vin dans une outre, une puce sur un cornichon, une paille dans un tas de poutres, striptease à la télévision.
Ce fameux générique d'ailleurs, indissociable de l'émission, est arrivé là un peu par hasard. Marco Lamenge et Jean Libon ont écouté des centaines de musiques. Ils cherchaient un style de musique qui ne soit pas trop clivant pour le public, comme le jazz ou le rock. Et puis un jour, ils tombent sur une reprise d'un morceau malien par la fanfare bruxelloise Combo Belge. Il s'appelle Batoumambé et à la base, il est joué par l'orchestre régional de Ségou. Et si le générique a été trouvé un peu par hasard, c'est aussi le cas pour le nom de l'émission. Les premiers films sont tournés et c'est dans la salle de montage que l'équipe tombe sur une affiche de striptease amateur accrochée au mur. Vendu ! On gardera le nom de striptease et le slogan sera en harmonie, l'émission qui vous déshabille.
Nu. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu ? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu. Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né, nu. Vivons comme on est né. Nu. Tout simplement tout nu. Nu. Tout simplement tout nu. Comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux. Des avec des chapeaux nuls, tout simplement tout nul. Restons nus, tout simplement tout nul.
De retour sur Transistor où vous écoutez Culture et vous qui vous parle aujourd'hui de l'émission culte des années 90-2000, Striptease. Né en Belgique, Striptease débarque en France en 1992. On est toujours sur le même concept, filmer des situations de gens ordinaires dans des courts documentaires où on n'entend aucun commentaire. Dès sa première diffusion en Belgique, l'émission est en prime time, en début de soirée quoi, là où les spectateurs sont les plus nombreux. Mais quand elle arrive en France, ce n'est pas la même. Striptease change de nombreuses fois, de jour et d'horaire de diffusion jusqu'à trouver son créneau, le dimanche soir à 23h. Pas franchement l'idéal quand on travaille le lendemain, mais quand vous avez goûté à Striptease, difficile d'en décrocher. À chaque fois, on se demande où ils vont chercher tous ces gens. Toutes les semaines, vous découvrez trois portraits de personnalités aussi barrées qu'hétéroclites. Le curé, la bourgeoise, le fils à maman, le marginal, le jeune con, la vieille aigrie, les ados en rébellion. Toute la société est dépeinte dans ces reportages. Alors forcément, certaines personnes marquent plus que d'autres. Comme le jeune Fabien, mulet apparent et tatouage de croix gammée sur l'avant-bras, on comprend vite que ce petit nasillon du nord des années 80 est en recherche permanente de reconnaissance, notamment avec son paternel.
Et c'est un truc qui te fait rêver,
de quoi ?
Hitler.
Bah, ça me... Ouais, j'aime bien.
Non, mais t'es...
C'est un gars bien. C'est un gars pour toi.
Qu'est-ce que t'aimes bien ?
Ses idées étaient positives au commencement.
Mais quoi ? Quelles idées positives ?
Bah, d'abord, quand tu faisais partie de ta propre armée, t'avais ta propre voiture, ta propre maison, les uniformes étaient impeccables. Comment dire ?
Et aussi des gens qui ont été massacrés aussi.
J'ai pas eu connaissance de ces faits. J'étais trop jeune d'abord.
Vous êtes fier de votre fils ?
Ouais, fier. Il faut d'abord savoir exactement ce qu'il devient, hein, pour en définir.
Et vous savez ce qu'il devient ?
Non.
Ce portrait, on le retrouve dans l'émission intitulée « Tiens ta droite », qui aura même droit à une suite quelques années plus tard, « Tiens-toi droite », où le jeune Fabien va devenir père à son tour. Ce genre de personnalité, c'est aussi ce qui fait la patte de Striptease. Perturbés mais fascinés, on ne sait plus si on doit les détester ou juste avoir mal au cœur pour eux. Comme par exemple dans « Tout salaire mérite travail » et sa suite 5 ans après « Nez cassé ». Là, c'est David, la vingtaine, boule de haine et de nerfs, abandonné par ses parents, qui lui aussi cherche désespérément reconnaissance et vie équilibrée. Mais qui en attendant passe de galère en galère, de façon plus ou moins volontaire.
Je t'écris, afin de te donner de bonnes nouvelles. Parce que on peut pas dire que toi, t'en prends. C'est bien beau de dire que tu m'aimes, que je suis ton fils adoré, mais faut le montrer et non le dire. Je sais que j'étais pas désiré, mais fallait me faire adopter ou te faire avorter. On fait pas un gosse à 20 ans pour toucher les allocations familiales, mais parce qu'on le veut et qu'on fera tout pour son bonheur. Je sais très bien que mon abruti de père, lui, ne dira rien, il a déjà peur de moi, alors c'est pas pour te dire quelque chose à toi. Mais bon, je te mets une lettre que tu m'as écrite, et tout ce qui est souligné, ce sont les mots que tu m'as dit, et moi je veux savoir si tu as écrit ça en étant ingin ou bourré, et si vraiment tu le penses. Si je vois que je n'ai pas de tes nouvelles oralement ou par écrit, alors je considérerai que je ne suis plus ton fils. Alors j'oublierai très vite que tu es ma mère et ne voudrais plus entendre parler de toi. Je te laisse dans mon silo, mais pas dans mon cœur, et espère que cette lettre te fera plaisir. Ton fils qui t'aime, David. Voilà. Et avec ça, si elle comprend pas, c'est tout fier, c'est qu'il roman, elle a rien au point chiche.
Alors comment ? Comment l'équipe arrive à trouver ces gens et faire d'une simple situation une pépite de documentaire ? Écoutez Marco Lamensch, l'un des deux créateurs de l'émission, qui nous donne quelques éléments de réponse.
Chacun a sa méthode. Il y en a qui passaient des nuits dans les cafés pour rencontrer des gens à filmer. Oui. Il y en a qui prenaient l'annuaire téléphonique en se disant « je veux absolument faire quelque chose dans une maison de retraite » et qui systématiquement, comme un bon journaliste, allait voir chaque maison de retraite. Il n'y avait pas de méthode. Donc chacun faisait un petit peu comme il voulait.
Et pour valider leur participation, les réalisateurs passaient beaucoup de temps avec les personnes qu'ils voulaient filmer. Pour les connaître déjà, mais surtout pour les convaincre. Une fois que c'était bon, pas de vrai contrat. C'était à la bonne franquette, comme on dit. Du moins, au début. Et techniquement, la méthode striptease était assez simple. Trois personnes, un réalisateur, un caméraman, un preneur de son et beaucoup de temps, comme l'explique Marco Lamensch.
On a décidé qu'il fallait se donner le temps. C'est-à-dire que pour un quart d'heure, il y avait au minimum une semaine de tournage et deux semaines de montage. C'était un minimum, c'est-à-dire que si on voyait que pour telle ou telle raison, il y avait un couac et qu'il fallait prolonger, on prolongeait.
Certains, surtout quand l'émission commence à se faire connaître, se doutaient un peu des répercussions qui pouvaient suivre la diffusion de leur portrait. Par contre, d'autres ne pensaient pas une seule seconde à l'impact qu'allait avoir Striptease sur leur vie. C'est par exemple le cas de Jean-Claude Labra et de sa mère Suzanne. Ce duo mère-fils fait partie du reportage « La soucoupe et le perroquet ». Diffusé en 1993, c'est sans doute l'épisode le plus connu de Striptease.
Culturez-vous, c'est sur Transistor avec Audrey.
Le pitch est assez simple. Nous sommes avec Suzanne, paysanne de 80 ans, habitant près d'Angoulême avec son fils Jean-Claude, la cinquantaine. Mais Jean-Claude est spécial. Il aurait été conçu et contacté par des extraterrestres qui lui auraient demandé de rejoindre l'étoile Altaïr. Jean-Claude se lance alors dans la construction d'une soucoupe volante dans son jardin. Faite de briques et de brocs, elle doit l'amener vers son destin. Et pendant ce temps, sa mère, Suzanne, nous parle de son perroquet adoré, mort depuis 24 ans et bien rangé dans un tiroir en attendant d'être enterré avec sa maîtresse.
Oui, mais quand tu seras posé là-bas, là-haut ?
Oh là là, quand je serai posé, maman, j'aurai fait un grand voyage déjà. Si ça se pose, que quand ça doit se poser, pensons aussi au retour, tu sais. Parce que là, ça va...
Je croyais que tu aurais pu revenir... en la conduisant du même côté que pour t'en aller.
Ah non, non. Je verserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Si tu veux, par exemple, dans la sphère, le fluide tourne dans ce sens, peut-on pour partir.
Ouais.
Et puis pour revenir, ben, il faudra qu'il retourne dans l'autre sens. Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de troisième dimension, il sera beaucoup plus facile de revenir de la quatrième dimension que d'y aller. Parce que la troisième dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables.
Mais si vous connaissiez déjà Jean-Claude et sa soucoupe, savez-vous que lors du reportage en 1993, il en était déjà à sa deuxième construction ? Et oui, cet ancien matelot de la marine marchande a eu une révélation sur le pont d'un bateau en 1970. Il a 21 ans quand il reçoit un message divin lui demandant de rejoindre les Bermudes afin d'être propulsé sur l'étoile Altaïr. Presque du jour au lendemain, Jean-Claude se fait débarquer sur Terre par son capitaine pour bizarrerie. Son équipage le trouve de plus en plus déséquilibré et commence à devenir agressif envers lui. Et malheureusement, l'agressivité des autres, Jean-Claude, il connaît. Ses parents étant séparés et ne pouvant subvenir aux besoins de lui et sa sœur, ils sont tous les deux placés. À l'orphelinat, pendant 7 ans, il va connaître violence, brimade et viol de la part de ses camarades et de ses encadrants. Un enfer qui s'arrêtera quand il se fera attraper à voler 5 francs à un surveillant. Exclu de l'orphelinat, il sera récupéré directement par sa mère qui l'amènera vivre avec lui à Germinac, petit village de la Charente-Maritime. Ils ne se quitteront plus jamais, jusqu'à la mort de Suzanne en 1999.
Vous écoutez Culturez-vous sur Transistor.
C'est donc à Germinac, en 1970, que débute la construction du premier engin non identifié de Jean-Claude, fraîchement contacté par les extraterrestres. Il va mettre près de 15 ans pour construire une capsule géante en contreplaqué de 2 mètres de haut, 9 de circonférence, pesant près d'une tonne. Son objectif ? Rejoindre les Bermudes pour s'envoler dans l'espace. Pour ça, il va embarquer avec sa soucoupe flottante sur un navire marchand qui le déposera à Dakar. Nous sommes en 1983 et Jean-Claude part donc seul sur l'océan à bord de sa construction. Pour lui, tout est sous contrôle. Il a testé son embarcation sur la Charente, elle flotte. Il a embarqué de quoi tenir, des boîtes de conserve, du riz, des pâtes, un réchaud à gaz, de quoi pêcher et même un fusil. Mais forcément, vous vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme prévu.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune, rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous. Vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le zazou, voilà le zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour, vous serez tous zazous comme nous, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements.
De retour sur Transistor où on décortique l'émission culte qui nous déshabille, Striptease. Avant notre pause musicale, nous étions avec Jean-Claude, héros du reportage La soucoupe et le perroquet, qui était au large de Dakar dans sa soucoupe ni volante ni vraiment flottante. Il aura quand même tenu 90 jours, 3 mois, à se faire balloter par les vagues, à écoper jour et nuit un pseudo-bateau qui prend l'eau et à se nourrir de pauvres poissons pêchés tant bien que mal. Parce que oui, Jean-Claude avait bien des réserves de conserve, mais avait oublié son ouvre-boîte à la maison. Enfin, ça c'est ce qu'il a cru jusqu'à son retour, finalement il était bien au fond de son sac. C'est donc après 90 jours d'enfer à vomir, tripes et boyaux que Jean-Claude est sauvé par un navire espagnol qui le ramènera à terre. De retour dans son petit village, Jean-Claude ne lâche pas l'affaire. Après l'échec de l'Adritan 1, il publie un livre sur son aventure, le Don Quichotte des Bermudes, et se lance dans la construction de l'Adritan 2. 10 ans après le début de la fabrication de la soucoupe volante, l'émission Striptease débarque chez Jean-Claude et sa mère et filme leur univers. Portrait de MacGyver sur les murs, discours lunaire et perroquet en boîte, tous les éléments sont réunis pour faire de ce documentaire un épisode culte. Après la diffusion en 1993 du reportage, Public et Média s'emparent de l'histoire et transforment les paysans en véritables phénomènes de société. Certains en font un culte, d'autres se moquent, ouvertement, voire même méchamment du duo mère-fils. Comme lors de l'émission de Christophe Dechavanne, Coucou c'est nous, où l'équipe met en scène le faux départ de Jean-Claude et sa soucoupe. Une séquence pénible d'un mauvais goût certain qu'on n'a vraiment pas envie de revoir. La vie des deux Charentais est complètement chamboulée. Des gens se mettent à débarquer chez eux pour se prendre en photo avec Jean-Claude et Suzanne ou carrément visiter la soucoupe. Des blogs sont même dédiés à l'épisode de la soucoupe et du perroquet. Mais en 2004, tout bascule. 5 ans après la mort de sa mère, le gentil Jean-Claude est accusé par la fille de sa voisine d'attouchement sexuel. Fini le doudin qui ne fait de mal à personne. Accusé par 5 fillettes et après 33 mois en maison d'arrêt, il sera condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Avec ses remises de peine, le prédateur passera finalement 6 ans, 8 mois et 4 jours en prison. Libéré en 2012, il s'installera seul dans un studio en HLM près d'Angoulême. Son ancienne maison vendue en viager a été pillée et vandalisée. Aujourd'hui, il se tourne vers Dieu en espérant que ses prières lui apporteront le pardon. Et oui, je vous avais prévenu en début d'émission, un mythe s'effondre.
Une émission de culture populaire, c'est Culturez-vous sur Transistor.
Striptease, c'est 850 films. Et comme dirait l'un de ses créateurs, Marco Lamench, il y a des marginaux pittoresques, mais Striptease, ce n'est pas que cela. L'émission est un reflet de la société, et dans la société, il y a aussi des barjots. Et c'est vrai qu'il y en a eu des barjots. Coucou Docteur Lulu. Mais pour ses réalisateurs, tous les documentaires ont été faits sans aucune méchanceté. Mais ça, c'est pas la vie de tout le monde. En 2012, Striptease a 20 ans. Depuis toutes ces années, elle a déjà essuyé pas mal de critiques qui la taxent de télépoubelle voyeuriste ou misérabiliste. On dit que l'émission est là pour se moquer des gens et en faire des bêtes de foire. En 2012 donc, et après 18 mois d'absence, Striptease revient avec une émission composée comme à son habitude de 3 documentaires. Presque 1 million de personnes sont devant leur télé, parés à regarder les 3 reportages du jour. Et ce coup-ci, petit plus, ils sont tous liés les uns aux autres pour en faire un documentaire de 52 minutes. Berger cherche bergère, c'est l'histoire de Damien, jeune éleveur de moutons dans le Nord qui habite avec sa mère et ses grands-parents. Désespérés de le voir éternellement seul, les grands-parents décident de faire appel à une entremetteuse. 2000 euros plus tard, Marguerite, conseillère matrimoniale, fait venir la très jeune Roxane de Roumanie. Et c'est là que le malaise commence. Les scènes sont surréalistes et franchement malaisantes. La jeune Roxane, qui ne parle pas un mot de français, se retrouve comme coincée dans la ferme. Entourée de toute une famille qui parle pour elle, de la conseillère matrimoniale qui en fait des caisses et d'un Damien prétendant Béa qui ne fait que la fixer, la pauvre Roxane fait vraiment peine à voir.
Ça va ? Oui. Elle te plaît ?
Oui.
Mais dis-lui.
Elle est mignonne, hein ?
Elle est sain, elle est naturelle.
Oui, mais elle est bien, elle est simple, elle est bien. Elle est bien, ah oui. Damien, il fallait pas une fille trop
sophistiquée, bien sûr.
Torrent de commentaires sur Twitter, alias X, le public est assez décontenancé. Il y a un sentiment de malaise et de pitié qui plane. La séquence la plus pointée du doigt est celle où l'on voit Damien, désespéré, qui veut s'en prendre à sa mère. Le jeune agriculteur, affligé par le départ de Roxane, apprend que sa mère a laissé fuiter l'information dans le village. Oui, ils ont fait appel à une agence spécialisée dans les rencontres avec des filles de l'Est. Il entre alors dans une colère noire et menace de tuer sa mère avant de tenter de se suicider. La grand-mère décide alors d'appeler la conseillère matrimoniale, persuadée qu'elle pourra ramener Roxane.
Allô Marguerite. Bon. Ben, c'est un peu le drame de ne... Parce que, bon ben, Marie-Josée, elle a raconté un peu. Oui, enfin, monsieur principalement, quoi. Oui. Alors, Damien, elle est très contrarié avec ça. Alors, oui. Ben oui. Hein. Alors, ça l'a chagriné un peu, un peu fort même, il était parti. Faire un mauvais geste hein, qu'il voulait faire. Hein. Il voulait faire un mauvais geste. Hein. Ben, il avait pris une corde. Ben oui. Alors je lui dis, non, de toute façon, ça va marcher, hein, Marguerite.
Beaucoup crient au scandale, comme le journaliste Bruno Roger Petit, aujourd'hui conseiller à l'Élysée. Suite à la diffusion de Berger cherche bergère, il publie une tribune dans le journal Le Nouvel Obs où il fustige le programme de France 3. Il le qualifie, et je cite, de « télé-réalité pour classe CSP+, en quête de voyeurisme, de la trash TV pour bourgeoisie en mal de domination sociale ». La réalisatrice, Véronique Hout, se défendra en disant qu'elle montre là une réalité telle qu'elle est et que ce qu'elle fait, à la différence de la télé-réalité, est une télé du réel. Quand on lui parle du sujet quelques années plus tard, voici ce que répond Marco Lamensch, le co-créateur de l'émission.
Je crois qu'il y a toujours eu de la tendresse et j'ai l'impression que dans ce film-là aussi, moi je me souviens d'avoir vu le jeune homme, le jeune agriculteur, sans avoir la moindre envie de m'en moquer. Je crois qu'il y a toujours eu cette espèce de mélange de tendresse, mais aussi de distance et d'ironie. Mais ceci dit, comme chaque film de Striptease, c'était pas formaté par Libon et Lamensch, c'était signé et fait par un réalisateur. Et il y a des réalisateurs qui sont plus tendres que d'autres.
La semaine suivante, France 3 diffuse le tout dernier épisode de Striptease. Si du temps de la polémique, elle a soutenu les réalisateurs et balayé les critiques, son discours de « les personnes savaient ce qu'elles faisaient, elles ont signé un contrat » n'a pas tenu longtemps. Sans grande annonce et à mon grand regret, l'émission Striptease est arrêtée.
Culturez-vous, c'est plein de pop, c'est plein de culture, c'est plein de pop culture.
Mais fort heureusement, en 2016, YouTube lance la chaîne officielle de Striptease. Si au départ, on y retrouve les grands classiques, en 2020, pendant le confinement, la chaîne belge RTBF ajoute des centaines de vidéos sur son site et YouTube fait de même. En 2017, sort aussi au cinéma le film « Ni juge, ni soumise ». Il met en scène la juge belge Anne Gruvez, habituée de l'émission qui avait déjà tourné avec l'équipe deux épisodes. Ici, on la retrouve en pleine réouverture d'une affaire classée, un « cold case » comme on dit, mais aussi dans son quotidien de magistrat. Quotidien truffé d'entretiens lunaires avec quelques gredins qui vont vite découvrir le personnage.
Le meurtrier est dans le dossier. Ce sont des dossiers qui, pour moi, me sont toujours restés sur l'estomac.
Pour l'ADN, je vais prendre des dents et de l'os.
Une juge prise en filature par l'équipe de striptease.
Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous ? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite. J'ai eu un mort, là.
Sa maman, ma grand-mère et le grand-père de mon père, c'est des sœurs et frères.
Vous imaginez un peu la consanguinité ?
On en apprend tous les jours.
Réalisé par Jean Libon, l'un des créateurs du format original, et Yves Inan, un habitué de la réalisation d'épisodes, Ni juge ni soumise a remporté en 2019 le César du meilleur film documentaire et on comprend pourquoi. Ce film est une véritable pépite à voir et à revoir. Alors ça, c'était pour le top. Parce qu'il y a également eu le flop. En 2019, la chaîne RMC relance la machine striptease. Même concept, même générique, tout y est. Enfin, tout sauf les créateurs, les réalisateurs et l'âme de l'émission. Une pâle copie qui ne convainc personne et qui a pu voir le jour seulement parce que la RTBF a cédé les droits sans rien demander à personne. Bref, ne vous attardez pas forcément sur ces épisodes et profitez plutôt des classiques disponibles sur la chaîne YouTube Striptease. Et si en plus de l'émission, vous aimez les livres, vous pouvez retrouver l'univers des striptease dans les deux ouvrages des créateurs Jean Libon et Marco Lamensch, Mes plus belges années et Striptease se déshabille. Et voilà, c'est déjà la fin de Culturez-vous pour aujourd'hui. Et avant de vous retrouver pour la prochaine émission qui sera pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture, je vous laisse en compagnie du docteur Lulu et de ses compères. Mais bien sûr, je n'oublie pas de vous faire des bisous, des bécos et de vous dire à tantôt.
Allez, docteur Lulu, encore un verre, encore un verre. Allez, docteur Lulu, encore un verre et ça arrive. Encore un petit verre de vin. Pour se mettre en route, encore un petit verre de vin. Pour se mettre en train, allez, docteur Lulu, encore un verre, encore un verre. Allez, docteur Lulu, encore un verre, et ça ira. C'est comme ça que tu m'as soigné, toi.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau, hein.
Je pense que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.